bienvenue sur La Route des Ondes sur Radio Grille Ouverte. Alors aujourd'hui, c'est le collectif Exploité Énervé qui s'invite dans l'émission. Alors dans cette émission, on va essayer d'aborder spécifiquement la situation des ressortissants européens dans le département du Gard et de leur galère pour obtenir les allocations et spécifiquement le RSA. Du coup, dans l'émission, on va commencer par essayer de déblayer un petit peu les différents ressorts administratifs qui amènent à cette émission. Ensuite, on entendra donc différentes personnes là qui vont nous raconter un peu leur galère par rapport à ces situations. Et enfin, on essaiera de vous raconter ce qui a été tenté avec le collectif et ce qu'on essaie encore de faire aujourd'hui pour essayer de débloquer ces situations. Du coup, avant de démarrer, ce sera bien d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est le collectif Exploité Énervé. Alors, ce collectif, c'est un collectif de chômeurs, de RSAstes, de travailleurs précaires qui s'auto-organisent dans une perspective de solidarité et d'autodéfense de classe. Et du coup, au départ de ce collectif, c'est quoi ? C'est un peu toutes les galères quotidiennes. C'est le manque de thunes, c'est le fait de pas pouvoir remplir le frigo, les galères pour boucler les fins de mois. C'est le fait de les galères pour trouver un boulot. Quand on a un boulot, c'est réussir à le garder. Réussir à garder parce que par rapport à toutes les pressions de la part des patrons, les pressions harcèlement, la pression au rendement, et voilà. Et puis, quand on n'a pas de boulot ou tout simplement d'une manière générale par rapport aux différentes allocations, toutes les galères auxquelles on se retrouve confronté face aux administrations, les contrôles, les coupures, les radiations. Et aussi au quotidien, la question du paiement des factures par rapport à l'eau, au gaz, à l'électricité et souvent aux coupures qui peut y avoir par rapport à tout ça. Et aussi, d'une manière générale, ce collectif, ça part aussi d'un constat un peu général sur la question de l'isolement auquel on peut se retrouver confronté un peu dans toutes ces situations et aussi un peu d'un côté de se dire que les patrons, les riches, les puissants, pour eux, quand il est question de s'organiser pour accentuer notre exploitation eux, quand ils parlent de ça, ils parlent de la baisse du coût du travail, ça c'est leur mot, mais en fait c'est le renforcement de notre exploitation. Donc eux, quand il est question de ça, ils savent s'organiser. Et nous, d'un autre côté, quand on est au boulot, à la CAF, face aux différentes administrations, face aux proprios, souvent on est isolé et du coup avec ce collectif l'objectif c'est d'essayer de se regrouper pour être plus fort dans ces situations là. Et alors concrètement c'est quoi? C'est s'entraider, c'est se donner des conseils et essayer de se défendre. Et du coup on essaie de monter des dossiers des dossiers de recours, en sachant qu'on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des juristes, on n'est pas des avocats, on en connaît et on essaie de bosser avec des personnes qui ont un peu plus de billes, mais voilà, nous on n'est pas des spécialistes, on part surtout de nos expériences et on essaie de s'entraider à ce niveau-là. Ensuite, ce qu'on essaie de tenter le plus souvent, c'est d'aller se faire entendre dans les bureaux, de demander des explications. En allant collectivement directement dans les administrations. Puis aussi, c'est d'essayer de rendre publiques ces situations. C'est un petit peu ce qu'on veut essayer de faire aujourd'hui par rapport à la situation des ressortissants européens dans le Gard. Ça peut être à la radio, ça peut être en différents tracts devant la CAF, devant Pôle emploi, en collant des affiches, en essayant de diffuser les infos dans des journaux, sur Internet. Puis aussi, c'est de pouvoir soutenir des luttes qui peut y avoir ailleurs, ou comme par exemple des grèves, comme par exemple une grève qu'il y a pu y avoir sur Alès dans l'année, là c'était les salariés de la société de bus, la Keolis, qui était en grève. Et donc voilà, pour finir, donc le plus généralement, là où je voulais en venir, c'est aussi les réunions du collectif. Souvent, c'est un peu l'occasion d'échanger, de débattre d'une manière générale sur la société dans laquelle on vit et d'essayer de se donner un petit peu des outils théoriques pour comprendre ce que c'est que cette société qui est divisée entre des personnes qui sont riches, d'autres qui sont beaucoup de personnes qui sont pauvres. Et donc une société qui est divisée en classes sociales, et essayer de se donner des billes de compréhension de tout ça, et à partir de là des outils pour se défendre. Ce collectif, ça fait 8 ans qu'il existe. Et en 8 ans, on voit qu'il y a quand même pas mal de... Dans les personnes qui viennent rencontrer le collectif, il y a des problèmes qui sont assez récurrents, qui reviennent assez souvent. Et donc, d'une part, c'est souvent donc des chômeurs qui se font emmerder par Pôle emploi pour soit avoir refusé une formation bidon, pour pas être assez souvent connecté sur Internet en faisant des recherches d'emploi, et du coup se font couper les allocations ou prennent des punitions, c'est-à-dire ils vont avoir 15 jours de suspension d'alloc et après hop ça repart, et la prochaine fois il faudra que vous soyez plus sage. C'est aussi des personnes qui ont des allocations qui touchent la côte REP et qui ont un handicap qui est reconnu par la MDPH et qui périodiquement remet en cause ces situations de handicap. Et les personnes doivent se rejustifier et ramener plein de papiers, alors que mais en fait leur situation n'a pas spécifiquement changé depuis. Et aussi beaucoup, souvent, c'est les problèmes qu'on rencontre, c'est face à la CAF. Et la CAF, son dada, c'est la suspicion de couple non déclaré. En gros, c'est des personnes qui vivent ensemble, enfin soit vivent ensemble en colocation, soit qui ont un enfant en commun. Et à un moment donné, la CAF décide que en fait ces personnes, elles ont aussi une vie de couple. Et quelque part, en fait, ça revient à des sortes de mariages forcés où des personnes se retrouvent à avoir du coup les mêmes allocations, le même compte CAF, alors qu'ils n'ont pas du tout une vie en commun. Une autre situation qui revient assez souvent, c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui, c'est la situation des ressortissants européens qui spécifiquement dans le Gard semblent avoir de grosses difficultés pour obtenir des allocations. Et en fait, donc là concrètement, ça fait à peu près 2 ans qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues voir le collectif, donc des Anglaises, des Allemands, des personnes anglaises, allemandes, espagnoles, qui sont venus nous voir après avoir essuyé un refus de RSA de la part du conseil départemental, enfin de la CAF et du conseil départemental qui est en fait l'organisme décideur pour ce qui est du RSA. Et donc toutes ces personnes qui ont essuyé des refus de RSA, et voire même en fait des personnes qui touchaient le RSA auparavant dans d'autres départements. Et une fois qu'elles sont arrivées dans le département et qu'elles ont essayé de faire suivre leur dossier en fait a été réétudié. Il y a eu une réétude de droit et là sont vues refuser le RSA alors qu'ailleurs elles le touchaient. Alors voilà, tout ça nous fait un peu nous dire que il semblerait que le conseil départemental du Gard ait une lecture particulièrement restrictive au niveau des droits des ressortissants européens. Et que de par là, on imagine qu'il y a énormément de gens qui sont dans la même situation dans le département. Et donc c'était un petit peu, c'était l'objet de l'émission d'aujourd'hui, d'essayer de parler de tout ça, et dans l'idée que si d'autres personnes sont dans ces situations-là, qu'elles puissent essayer de se regrouper, dans l'objectif de mener des actions collectives contre le conseil départemental du Gard. Et peut-être que, alors, ce que j'ai complètement oublié, je suis allé assez vite, c'est de présenter, donc on est quand même plusieurs sur le plateau donc aujourd'hui. Donc moi c'est Greg, donc il y aura Pélagie, il y aura Laurent, il y aura Fredo, Ravière, et tout à l'heure on entendra Corinna aussi qui nous parlera par téléphone. Et là, peut-être Laurent, tu peux nous en dire un petit peu plus sur, plus précisément sur la situation de ces personnes étrangères dans le Gard.
Alors pour commencer, je voulais réagir à des idées qui sont répandues mais qui sont fausses. Il faut préciser que les personnes qui ne viennent pas de l'Union européenne n'ont pas le droit au RSA, ni aux APL, ni aux autres aides sociales. Que ça dépend, en fait, ces droits dépendent du droit au séjour. Les personnes sans papier ne bénéficient que dans certains cas d'une aide d'urgence. Par exemple, lorsque le statut de réfugié est accordé, par exemple. Ou encore à l'aide médicale d'urgence, l'AME. Pour les ressortissants européens, le droit à la mobilité permet de s'installer dans d'autres pays de l'Union, mais sans être une charge pour l'État. En gros, on a le droit de voyager, de s'installer où on veut, mais si on a des sous. Les capitalistes, eux, ils peuvent exploiter où ils le veulent, commercer comme ils le veulent, tandis que les travailleurs et les chômeurs, ils sont soumis à un contrôle étroit. Le droit aux aides sociales, comme je l'ai dit, il est lié au droit au séjour. En effet, un ressortissant européen n'a pas obligatoirement un droit au séjour régulier. Les différentes possibilités pour avoir ce droit au séjour et le conserver, elles sont assez complexes. On ne rentrera pas dans les questions juridiques aujourd'hui. Néanmoins, si on veut savoir un petit peu plus sur ces textes, les textes réglementaires sont les directives européennes, le CESEDA, qui est le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en dernier ressort, dans le Gard, le règlement départemental de l'allocation RSA. Pour plus d'informations juridiques, on peut voir le texte du COMED, Comité pour la santé des exilés, le tableau 9 situations d'égalité de traitement, accès aux droits sociaux et aux droits au séjour des citoyens de l'Union européenne. Ce texte est présent sur le site du COMED, C-O-M-E-D-E, et on le mettra en lien aussi sur le site d'Exploiter Énervé.
Et donc là, on va faire une première petite pause, on va écouter donc les têtes raides, Lydie Tanté.
Les cris des chiens hurlent à la ronde. Je suis pas inscrit sur la map monde. Y a pas de pays pour les vauriens, les poètes et les baladins. Y a pas de pays, si tu le veux, prends le mien.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand ils se croient français. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand ils se croient français. Ces sans-papiers
qui vont bientôt partir
vers leur pays, les chiens.
On a tout pris, chez eux, y a plus rien.
De rétention, cale de fond, j'en ai même oublié mon ombre. Je promène moi dans vos décombres. On m'a donné un bout de rien, j'en ai fait 100 000 chemins.
J'en ai fait 100, j'en ai fait un chemin de l'identité, l'identité, l'idée titan,
l'identité
à la ronde.
Et dans ce flot du Nigérien, j'aurais plus de nom, j'aurais plus rien. Dis-moi c'est quand,
dis-moi c'est quand
que tu reviens.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est quand il se croit français.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est quand il se croit français. Avec tous ces chantiers
et tous ces foulitiers,
ils visent pas que les lapins.
C'est plus du gros LCD.
Tout m'avoue que des missiles solaires ou des scuds. Et moi, avec mon pistolet à bouchon, je pars au front.
Paris sera beau, quand chantera les oiseaux. Paris sera beau, si les oiseaux me manquent. Paris sera beau, car les oiseaux. Allez, Paris sera beau.
We'll be right back.
Alors on a parlé des textes juridiques qui réglementaient le droit aux aides sociales pour les étrangers. Bon, ces textes, ils sont très limités pour les travailleurs et les chômeurs européens. Ils limitent fortement la liberté de circulation et d'installation. Mais ces différents textes européens, français et départementaux sont eux-mêmes restrictifs les uns par rapport aux autres. Le droit européen étant plus large, le droit européen français déjà plus restrictif, et alors la réglementation du GAR est encore plus limitée. Juste pour prendre un petit exemple, après un contrat de travail de moins d'un an pour un ressortissant européen en France, il peut maintenir son droit au séjour, alors dans la réglementation européenne, pendant plus de 6 mois, tandis que dans le CESEDA, le règlement français, c'est 6 mois pile. Et enfin, dans le GAR, c'est au maximum 6 mois. Là, on voit qu'il y a une graduation entre l'Europe, les lois françaises et les règlements départementaux qui sont de plus en plus restrictifs. Et pour de nombreuses autres situations, c'est aussi le cas. Nous, ça nous importait de faire cette émission parce qu'on pense que dans le Gard et puis ailleurs aussi, certainement beaucoup de personnes européennes se retrouvent dans des situations difficiles à cause de cette réglementation. Ça nous importait d'en parler et que les personnes n'hésitent pas à nous contacter et à réagir pour faire valoir leurs droits et la possibilité d'avoir le RSA et de vivre en France. Donc tout de suite on va passer au témoignage. Fredo, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi?
Ben oui, en 2010, j'ai décidé de repartir en Angleterre après avoir vécu en France pendant 30 ans. En 2014, j'ai décidé de revenir en France parce que l'Angleterre, ça m'allie pas, quoi. C'est bon. J'étais plus près en français que dans ma peau que anglais, en fait. Donc, j'ai revenu ici et après j'ai revenu, j'ai inscrit au Pôle emploi tout de suite. Hein. Après, j'ai m'inscrit comme auto-entrepreneur. Je travaille quelques mois. Donc, comme c'est au début, on n'a pas trop de clients au départ. Je décide de inscrire à la RSA. Donc j'étais tout de suite refusé et j'ai continué à travailler un peu à droite à gauche et j'ai redemandé la RSA et chaque fois pendant un an j'étais refusé. Donc une amie m'avait dit que viens me voir exploiter énervé. Alors j'ai venu un jour et puis on a décidé de faire qu'est-ce qu'il faut pour le faire. Donc, on a réussi à avoir un rendez-vous avec le chef du département de RALES de l'RSA, en fait, et elle nous a fait faire un rendez-vous à Nîmes avec les directeurs de RSA, je présume.
Et le médiateur de la CAF, en fait, qui avait.
Un médiateur de la CAF, quoi. Voilà. Après ça, apparemment, beaucoup de discussions, et, bon, ils ont décidé que c'était résolu pour moi. Ouais. Donc, c'était long, tu vois, de faire recevoir cette réponse. Hein.
Et depuis, du coup, ta situation, ça c'était donc il y a 2 ans, et du coup, aujourd'hui, ta situation, enfin depuis les 2 ans, comment ça en est où? Est-ce que tu continues à toucher le RSA depuis?
Oui, je touche le RSA depuis, et puis des fois je n'ai plus, des fois je l'ai, ça dépend, je touche le prime d'emploi, hein. Et ça continue comme ça. Et tous les semestres, ils m'envoient un papier, il s'appelle droit de séjour, où il faut que je leur dise combien je gagne par mois pour les 6 prochains mois. Donc voilà, pour voir si j'ai toujours le droit de séjour.
Bah, du coup, peut-être maintenant, on va peut-être écouter aussi Corinna elle a une situation un peu similaire à la tienne. Enfin, en tout cas, elle bossait sous un statut d'auto-entrepreneur.
Oui, Corinna, bonjour, c'est Pélagie. Tu es au téléphone, c'est ça? Oui, je suis au téléphone. Bonjour.
Voilà. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous expliquer ta situation? À combien de temps tu étais restée en France quand tu as demandé des aides?
Oui. Donc, comme Paolo, il s'appelle. Hein, si j'ai bien entendu.
Fredo. Non, Fredo.
Fredo, ouais. OK. Pareil à moi, je suis venue en France pour vivre en permanence ici en 2010, janvier 2010. J'ai pas trop travaillé dans cette année-là, mais je me suis inscrite, par exemple, en Pôle emploi en juin 2010. Après, le temps déroulé, à un moment donné, en 2012, je me suis inscrite aussi, pareil, comme auto-entrepreneuse pour faire le marché. Et également, j'ai fait des... si on veut, chaque année, donc ça peut faire maintenant 7 fois, je faisais quasi chaque année, je faisais une demande de RSA pour être soutenue par l'État, et c'était chaque fois refusé. Voilà. Et quoi dire de d'autre?
Tu n'as aucune aide de la part de l'État, de Pôle emploi?
Ah non, j'ai jamais réussi, j'ai jamais reçu quelque chose. Non, jamais. Et enfin, des aides, là, spontanément, pour faire une demande d'une petite aide de 100 euros, par exemple, vers le comment ça s'appelle encore, là, le Gard, le général du Gard.
Le conseil départemental.
Voilà. Mais non, j'ai jamais eu quelque chose.
Et est-ce qu'on te donne des raisons de ces refus?
Quand c'était refusé, en général, déjà, quand je reçois le courrier, ou maintenant c'est par Internet, par email, il n'y a même pas une raison pourquoi je ne le reçois pas. Mais en 2013 ou 2014, c'était une raison, comme j'ai insisté un peu de plus, je redemandais, voilà. Et là, c'était le sujet par rapport de revenus insuffisants. Mmh. Voilà. Et du coup, au début de cette année, j'ai arrêté le statut auto-entrepreneur parce que, comme j'ai fait très très peu de chiffres d'affaires, ça a commencé à m'embêter aussi. Et j'ai arrêté ce statut-là parce que, en plus, les finances publiques, ils m'ont demandé par courrier que j'avais 163 euros à payer direct, et c'était du coup, je savais pas, mais je m'en doutais, c'était les cotisations foncières entreprises, CFE. Voilà. Et du coup, j'avais un peu du mal à payer ça. Enfin bref. Et après, je me suis dit non, ça va pas du tout comme ça. Je gagne pas ma vie, je m'en sors pas du tout de tout. J'arrête ce statut. En plus, ils veulent encore plus de sous de moi que moi je gagne. Et c'est pas possible. Donc j'ai arrêté. Et je me suis lancée cette année dans le statut saisonnière. D'accord. Déclaré, voilà. Et là, je dois tout déclarer aussi à la CAF. Voilà. Et après, je ne sais pas encore quand, mais je ne vais pas retarder, je vais pas tarder à refaire une demande de RSA. C'est ce que j'ai appris, en fait. Il faut avoir travaillé, déclaré au moins 6 mois. Et il y a un certain nombre des heures. Il faut avoir travaillé, j'ai oublié, pardon. Je sais pas, peut-être vous le savez, je sais pas.
En fait, c'est pas vraiment une question d'heure, c'est surtout en fait une question de. Enfin, c'est un truc assez flou de montant de revenus, en fait, sur une période de plusieurs mois, quoi.
C'est en gros, on nous dit au conseil départemental que s'il faut minimum avoir 100 euros par mois, sinon on peut pas avoir le droit au séjour. Enfin, on ne peut pas avoir le droit au séjour reconnu. Voilà, pour pouvoir avoir des droits sociaux.
Non, je...
En fait, quand on parle de droit au séjour, c'est plutôt par rapport au fait qu'on prouve qu'en tant que ressortissant européen en France, on n'est pas une charge pour la société française. Donc, on a le droit de rester et donc on peut éventuellement avoir le droit de demander des aides qui ne nous seront pas forcément accordées. Donc, tu es toujours un peu dans la galère, quoi.
Et surtout, ça t'a forcé à changer, de statut.
Oui, plus ou moins. Enfin, pour l'instant, ça va parce que j'ai pas besoin de grand chose pour vivre. Je suis dans le statut avec un hébergement gratuit, voilà. Et j'ai besoin de très peu à vivre.
Oui.
Voilà. Ça, je raconterai plutôt privé. voilà.
Ok.
Et je m'en sors déjà, quand même, j'ai travaillé toute l'année, enfin, en été, et en début de novembre, j'ai arrêté avec les saisons, et je m'en sors toujours avec ces sous. C'est pas beaucoup, mais ça va. Et là, j'ai des petits boulots à gauche, à droite, ici dans mon coin. Et ça va aussi. Je suis un peu plus riche que les autres années.
Oui. Enfin, c'est quand même une situation précaire. Voilà, ouais. Tu nous tiendras au courant de tes avancées par rapport à tes demandes de RSA futures.
Ouais, d'accord. Oui. Okay, je le ferai cette fois-ci parce que on s'est perdu un peu de contact et grâce à Greg qui m'a appelé l'autre jour. C'est très sympa. Merci Greg.
Merci Corinna.
Et du coup, ouais, je le ferai carrément. Dès que je trouve le moment, je refais la demande de RSA. D'abord, je déclare tous mes revenus de cette année à la CAF. Et après, j'envoie la demande et je vous tiens au courant.
Très bien.
Je vais le faire. Ok,
super. Promis. Merci.
Oui, merci à vous. Et bon courage pour l'émission.
Ça marche.
Merci beaucoup.
Ok, peut-être que maintenant on peut écouter Ravir, tu peux nous le dire toi aussi, parce que t'es une des troisièmes personnes qui est venue voir le collectif et qui avait un peu les mêmes problèmes avec le conseil départemental.
Oui, bonjour. En fait, je sais pas par où commencer. Il y a plusieurs choses, en fait, dans les témoignages des autres ressortissants européens qui me font penser à ma propre situation. Mais bon, déjà, je pense que c'est assez évident, hein, des trucs qu'on voit, c'est assez opaque. C'est pas assez transparent. Je pense qu'on est un peu dans les flous, et comme il avait dit Laurent tout à l'heure, il y a plusieurs législations qui se chevauchent l'un à l'autre. C'est vraiment, déjà que c'est difficile. En plus, c'est difficile de comprendre où on est et à quoi on a droit. Et chacun, ça dépend de qui on parle, on va nous donner une version différente. Quoi. Et du coup, dans ces sens-là, je pense que c'est vraiment important de faire appel aux autres citoyens européens qui se trouvent un peu dans une situation similaire, de dire, c'est votre droit quand même, on est citoyen on est citoyens ici, on a le même droit que les Français. Et je pense que si ce n'est pas nous qui on se va pour réclamer notre droit, ça ne va pas être des gens qui sont, entre guillemets, si privilégiés que nous. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'étranger, on a encore la chance de, par exemple, avoir accès à la justice gratuite et tout ça. Bon, du coup,
et toi, dans ton cas, justement, quand tu es venu nous voir il y a 2 ans, en fait, c'était quoi ta situation? Tu nous disais qu'en fait, tu venais d'être installé dans le Gard. Et justement, tu touchais le RSA ailleurs avant. Du coup, c'était quoi la réponse du coup de...
Oui, en fait, en août 2015, hein, c'est quand j'ai déménagé dans les gares. Et je suis en France depuis 2005. Hein, du coup, à l'époque, ça faisait 10 ans que j'étais là. Maintenant, ça fait 12. Hein. Et dans les départements où j'habitais précédemment, c'était les Tarn, j'avais le RSA. Et avant ça, j'avais été en Haute-Garonne. J'avais aussi le RSA, et voilà, c'est en déménageant dans les gares que les départements de gare ont profité, on va dire, de l'opportunité des déménagements pour remettre un jugement, un droit au séjour. C'est l'excuse sur laquelle elle peut s'appuyer pour couper l'accès aux prestations, quoi. Avant ça, je veux pas trop raconter l'histoire de ma vie, mais en gros, ça fait 12 ans que je suis en France. J'avais été surtout à Paris avant, j'avais travaillé plusieurs années, j'avais cotisé, Au bout d'un moment, la situation dans mon domaine d'activité, dans l'audiovisuel, c'était pas évidente. Du coup, j'ai décidé de m'orienter dans l'agriculture, d'essayer de créer ma propre exploitation, quoi, de développer mon projet professionnel. Sauf que, malheureusement, les principes d'égalité, c'est pas respecté. Je peux pas me permettre de réfléchir à réorienter ma carrière professionnelle comme un Français il pourrait le faire, parce que je peux pas bénéficier de cet minimum social qu'est le RSA, quoi.
Parce qu'en gros, là, concrètement, donc toi, ça fait 2 ans et ta situation n'a pas été résolue depuis 2 ans. Et du coup, concrètement, en fait, ça signifie quoi pour toi, financièrement, matériellement, depuis 2 ans?
Oui, c'est vrai que je pense que n'importe qui entend ça, il peut un peu s'imaginer, mais c'est vrai que c'est autre chose de le vivre. Bah, encore une fois, j'étais un peu privilégié, j'avais pu mettre un peu d'économie à côté quand j'ai travaillé, mais justement avec cet objectif de m'installer, de créer une activité agricole, bah, j'ai dû vivre de ces économies plutôt que pouvoir les garder pour démarrer mon projet. Et après, bon, je sais pas, c'est difficile de résumer maintenant toutes les difficultés que ça entraîne, mais rien que voilà, je sais pas, je pense qu'on peut imaginer assez facilement, c'est déjà en vie avec un minimum social, si en plus on est coupé de ça, j'ai réussi un peu à essayer de continuer à m'évadre, à essayer de continuer à mener à terme mon projet pendant 2 ans, mais maintenant c'est vraiment juste pas possible, et un peu comme ce qu'a raconté Corinna avant, je dois renoncer quelque part, hein, à continuer à essayer de mettre à terme mon projet, je dois chercher des boulots dans des domaines que, bon, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Et après, bon, je sais pas, c'est pas comment décrire, mais c'est les difficultés que ça entraîne, ça va un peu à tous les niveaux, y compris au niveau social, on a aussi au bout d'un moment un peu marre d'être toujours dans le cercle d'amis, tu es toujours celui qui est en difficulté, qui a besoin d'être aidé, parce que voilà, tu peux même pas compter sur le minimum, quoi. C'est vraiment difficile à décrire les degrés de difficulté dans lesquels on est mis, quoi, avec ce genre de situation, non? Et là, bon, comme vous le disiez, Laurent, tout à l'heure, la situation juridique, elle est complexe, on passe un temps et une énergie fou à vraiment essayer de comprendre comment ça marche, à essayer qu'est-ce qu'il faut faire pour faire valoir ses droits, voilà. Plutôt que pouvoir se consacrer à des choses plus intéressantes et qu'à long terme, ils seront aussi plus productifs pour, y compris pour les départements, pour le territoire, hein. Voilà.
Ok. Bon, on va peut-être faire une deuxième petite pause et après on racontera un petit peu les batailles qu'on avait essayé de mener il y a 2 ans et ce qu'on va essayer de mettre en place là, maintenant et dans le futur. Et du coup, là, ce qu'on va écouter, c'est La Bougeotte et c'est le morceau qui s'appelle RSA Attitude.
Toi tu fais quoi de ta vie? Je suis au Pôle emploi, je touche le RSA. Et toi tu fais quoi de ta vie? Je suis au Pôle emploi. Et toi tu fais quoi de ta vie? Je suis au Pôle emploi, je touche le RSA. Et toi tu fais quoi de ta vie? Je suis au Pôle emploi. Écoute, poteau, voilà le topo, je traîne au quartier. Puis pas la bouche qu'a sur la tête, ma bouche au pied, ça caille. Tellement celui que je vais en péter des flocons de neige jusqu'au mois de juillet. Regarde autour, misère entretenue, jeunesse défavorisée. À l'image des surplus, qu'on préfère détruire plus que de se partager. La même entre Paris et Carthagène, passant par Istanbul ou Copenhague, les mêmes. Tiennent les rêves, imposent leur règne et peinent. La compassion entre deux dîners mondains là, ça me fout le démon. Parce qu'à la base, on ne demande rien, nous. Et sûrement pas la charité, en vrai, je pense qu'on nous donne rien, non. On est acheté maintenu dans la précarité, la tête dans le guide. On ne regarde pas ce qui se trame à côté pendant ce temps-là. Se voit des noms entre groupes d'intérêt, ces gros tarés à la pensée aux coups de blindés. Mais n'oubliez pas que ces bourgeois ne sont qu'une sorte de cochon à plumes. Plus ça devient vieux là, plus ça vous enfume.
Tu vois comment ça se passe quand on unique jusqu'au trognon. Jusqu'au trognon, le duc.
Et toi, tu fais quoi de ta vie? Je suis au Pôle emploi, je touche le RSA. Et toi, tu fais quoi de ta vie? Je suis au Pôle emploi. Et toi, tu fais quoi de ta vie? Je suis au Pôle emploi, je touche le RSA. Et toi, tu fais quoi de ta vie? Je suis au Pôle emploi. Bien sûr, il y a le R, le S, le A, mais surtout les droites et de l'aptitude. Tapé, café, bière et toutes ces sales habitudes. Abonnés au 3-9-4-9 comme la plupart des refs dans mon 6-9. Amateur de grandes feuilles et soirées de gong ici. On fait le deuil de nos salaires en tirant sur le bon. Oui, les RSA, c'est la misère. Dire le contraire, ce serait un glon. Si par la longue, on s'habitue à tout. Sauf les chaussettes avec les troncs sous café en permanence. Maintenant, il y a du shit sous nos ongles tout le temps. Je me dis que c'est de leur faute à eux, man. Et leur putain de système.
Oui, ils goûteront les flammes. Firebomb them in a Babylonia. Et toi, tu fais quoi de ta vie? Je suis au Pôle emploi, je touche le RSA. Et toi, tu fais quoi de ta vie? Je suis au Pôle emploi. Et toi, tu fais quoi de ta vie? Je suis au Pôle emploi, je touche le RSA. Et toi, tu fais quoi de ta vie? Je suis au Pôle emploi.
Alors, on est toujours sur l'émission La Route des Ondes, avec aujourd'hui le collectif exploité Énervé qui s'est invité sur le plateau. Là, on a entendu donc les témoignages de Fredo, Ravière et Corinna qui te racontaient un peu leur galère par rapport à ces demandes de RSA et surtout les refus de la part du conseil départemental. Et donc tout ça, nous, avec le collectif, donc on a rencontré toutes ces personnes il y a 2 ans qui sont venues nous voir, nous rencontrer un peu au moment où le conseil départemental fait la CAF et le conseil départemental qui est le décideur leur a signifié le refus. Et du coup, dans le cadre du collectif, en fait, ce qu'on a tenté, c'est de quelque part en fait d'essayer de mettre la pression sur les instances décisionnaires des versements de ces allocations. Parce que nous on estimait que collectivement et avec ces personnes là on estimait que il y avait aucune raison que ça leur soit refusé, et donc on a commencé en fait en allant occuper en fait des locaux qui sont sur Alès, en fait c'est l'Utasi, en fait c'est un service détaché en fait du conseil départemental qui pour les questions des allocations et qui gère, en fait il y en a plusieurs dans le département et notamment sur Alès. Et donc on est allé une petite vingtaine, et l'idée c'était des joyeux lurons qui débarquent dans les bureaux, et c'est un endroit en fait où qui est pas vraiment destiné à accueillir du public, et donc on débarque là-dedans, c'est des bureaux, et on dit qu'on a un problème et qu'en gros on a tout ce qu'il faut, on a du café, on a du thé, on a tout ce qu'il faut pour attendre tant que qu'on n'aura pas quelqu'un qui pourra venir nous expliquer un peu c'est quoi le problème, parce qu'en fait il faut rappeler que toutes ces personnes qui sont venues nous voir en fait elles sont vues signifier leur refus de RSA par une lettre, des courriers assez lapidaires de la part de la CAF, qui leur dit juste en fait vous avez on refuse votre droit, votre RSA, voire pour des personnes qui ont essayé de demander des explications, le conseil départemental a juste expliqué que c'était par rapport à une question de droit au séjour ou de maintien au droit au séjour, mais sans plus argumenter sur ou motiver les refus. Ce qui fait en fait que dans le processus en fait quand on fait une demande de RSA on l'a fait auprès de la CAF, dans les cas des ressortissants européens ces demandes sont directement décidées par le conseil départemental parce que c'est des demandes qui sont pour eux compliquées, donc ils refusent, et après ça la suite c'est de si on veut contester c'est de faire un recours auprès du conseil départemental. Et donc là quand on fait un recours forcément il faut pouvoir se défendre, il faut pouvoir apporter des éléments pour se défendre. Et là, et donc le jeu en fait du conseil départemental, c'est de donner le moins de billes possible sur lesquelles après pouvoir se défendre. Enfin, ils refusent, mais ils n'expliquent pas sur quels éléments. Vous refusez le RSA, mais pourquoi? Et donc on peut pas se défendre. Et donc là, un des premiers objectifs en fait en allant à l'Utasi, c'était d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, sur quoi le conseil départemental s'appuyait pour refuser le RSA. Et donc du coup voilà, donc pour en revenir quand on était dans cette occupation à l'Utasi, en fait c'est assez rapidement ils ont passé des coups de fil dans tous les sens à Nîmes, à Alès, et au final c'est en fait une personne du conseil départemental qui se trouvait dans les locaux à rue Potier à Alès qui s'est déplacée pour nous voir à l'Utasi. Et donc là, on a vu un peu chacune des situations particulières, et de là est ressorti qu'on aurait droit à un rendez-vous à Nîmes, donc dans les locaux de la CAF, pour voir précisément quelle était la situation de chacune des personnes. Voilà, donc après ça, ça c'était quelques semaines, je crois, une dizaine de jours après, donc on a continué à tracter autour de ces histoires, à essayer de le rendre public le plus possible. On est retourné faire des petites visites au conseil départemental à Nîmes pour rappeler qu'on était toujours là et qu'on attendait toujours d'avoir que ces situations se débloquent. Et après, donc, on a eu ce fameux rendez-vous à la CAF de Nîmes, donc avec le médiateur de la CAF, qui est une personne assez, qui est là pour pacifier les conflits de la CAF, enfin, c'est vraiment son rôle, et donc les personnes du service allocation du conseil départemental. Et donc là, au final, sur les ces trois personnes là qui avaient donc Ravière, Corina et Fredo, au final, suite à tout ça, ce qu'on a essayé de faire il y a 2 ans, il y a que Fredo qui a vu sa situation se débloquer.
Oui, c'était bon. Et moi, je suis sûr, si on se battu comme ça pour l'avoir, c'était parce que ça le gênait un peu les CAF. Hein. Je suis très content que ça marchait. Désolé que les autres n'ont pas marché, mais je ne sais pas pourquoi.
Et après, voilà, mais en fait, une autre chose, ce qu'on disait, en fait, ce qui a été obtenu par cette bataille il y a 2 ans, c'était pour toi ta situation qui s'est débloquée.
Oui.
Et aussi, quelque part, bon. Après, bon, c'est assez mince, mais on a quand même, du coup, eu des explications plus motivées. Enfin, du coup, la CAF a dû, le conseil départemental, a dû, en fait, vraiment motiver. Donc, il y a eu des vrais courriers avec un pointant où le conseil départemental devait pointer des articles de loi pour expliquer pour motiver le refus. Et du coup, à partir de là, sur le plan juridique, il y avait une possibilité d'essayer de se défendre et de nous apporter des éléments. Et peut-être, Javier, tu peux parler un petit peu, parce que toi, du coup, en gros, pour très rapidement, en gros, depuis 2 ans, après, donc toi, Fredo, ta situation s'est résolue. Ouais. Corina, en gros, elle, en fait, ça la fatigue vraiment énorme. Enfin, de batailler, en fait, quelque part, ça lui demandait plus d'énergie, en fait, de continuer à batailler plutôt que d'essayer de se débrouiller, par elle-même. Enfin, en tout cas, elle a préféré, elle a un petit peu lâché l'affaire. Et toi, Ravière, tu as choisi une autre voie, en tout cas. Après ça,
bon, j'avais pas trop le choix en fait. Hein. C'est vrai qu'il a cette habitude un peu systématique de pas justifier, motiver les décisions. Du coup, dans mon cas, au moins on a obtenu ça. Au moins on savait c'était quoi la base juridique. Et pour moi, c'était clair que voilà, que l'étape suivante, c'était amener l'affaire au tribunal. Hein. Du coup, voilà, ça m'a permis de voilà, au moins savoir qu'est-ce qui venait après, et voilà, essayer de bouger un peu, et du coup, voilà, chercher un avocat et tout ça. Et c'est vrai que là, je suis tenté de dire que presque c'était une erreur j'ai trop fait confiance au système légal, je disais, ah quoi, j'avais un peu espoir encore hein, que voilà, le système allait fonctionner. Et bon, ça a réfléchi pendant 2 ans pour que finalement le tribunal administratif de Nîmes faille à mon compte sans même répondre à mes arguments. Du coup, maintenant, l'affaire, il est encore en temps. Ça fait objet d'un recours auprès du Conseil d'État. Et bon, l'affaire, il continue. Entre-temps, il a eu des changements de situation. J'ai eu une ouverture des droits. Ça a coupé à nouveau. Encore sans justification, mais bon, il y a encore un recours administratif qui est lancé et qui n'est pas encore la réponse. Après, il y a eu encore un changement de situation parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai dû un peu renoncer à tout et commencer à chercher des boulots un peu désespérément. Du coup, bon, nouvelle situation puisqu'il travaille. Du coup, nouvelle demande qui n'est pas encore reçue une réponse. Voilà. Et en fait, pour revenir à ce que il faut le faire, il faut se battre, hein, surtout quand on a cette possibilité, mais il faut pas se contenter de ça. Je pense qu'effectivement, même si, comme tu disais, ça peut paraître un petit résultat d'avoir au moins une réponse justifiée, je pense que j'aurais dû encore continuer et monter encore plus la pression, et c'est ce que je compte faire maintenant. Quoi. Je pense que malheureusement, on peut pas non plus faire confiance complètement au système légal et de justice. Quoi. C'est, bon. On voit déjà un peu.
Effectivement, il y a la voie juridique, mais il y a aussi la bataille collective. Je pense qu'il peut aussi changer des situations. Et en tout cas, c'est quelque part un peu les seules armes que nous qu'on a entre nos mains et qui sont parce que le juridique, on sait bien que c'est toujours. On peut essayer de. Enfin, quelque part, on est plus souvent perdant par ce biais-là que par une bataille collective. Et en fait, qu'est-ce que j'entends par là, c'est que avec le collectif, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on remarque assez souvent, c'est que quand quand on va seul en fait à une administration pour contester une situation, ben souvent on se fait soit on nous répond pas du tout, soit on nous renvoie à plus tard, ou on se fait envoyer bouler. Et alors qu'à partir du moment où on est accompagné par une ou deux personnes, déjà l'accueil il est pas le même, on nous prend déjà un petit peu plus en considération et on nous répond. Et alors quand on arrive à 10 ou 15 et 20 et qu'on dit que ça les chamboule un petit peu et même voire beaucoup dans leur fonctionnement habituel, bah là ils commencent à chercher un petit peu plus les solutions, voir un peu qu'est-ce qui est possible. Et là, dans ces situations-là, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que la question du RSA, donc c'est le conseil départemental qui décide, enfin qui est payeur et qui décide en fait du versement des RSA, du RSA. Et ça, il paye avec quoi ? Avec des enveloppes qui sont versées par l'État. Donc, on sait bien que l'État, ben, ça fait des années qu'ils essaient de réduire les budgets des conseils départementaux. Et par effet ricochet, ben en fait, le conseil départemental, lui, il y a des coupures dans les différentes attributions du conseil départemental, et notamment ben, pour les pauvres, les allocations qui sont versées aux pauvres. Et ce que je voulais dire, c'est que en fait, il y a toujours en fait une possibilité. Il y a de l'argent dans la caisse. Enfin, même si il y a des réductions de budget, il y a de l'argent et ils peuvent le verser. Et quelque part, il faut réclamer nos droits et pousser pour essayer d'obtenir ça.
Oui, c'est ce que je voulais dire sur ça. C'est pour moi, c'est clair que c'est un choix politique. Je veux dire, oui, bien sûr, dans les autres départements, d'ailleurs, c'est mon cas dans mon historique, j'ai habité dans d'autres départements avant, j'ai jamais eu un seul problème sur cette histoire de droit au séjour. Ça fait 12 ans que je suis en France. Je veux dire, c'est un choix politique du département du Gard de vraiment essayer de gratter là. C'est juste, ils ont vu une fenêtre, une opportunité légale pour essayer de gratter. Ils ont profité de ça. Quoi. Après, voilà, l'affaire au niveau justice, ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est clair que plus on monte dans des juridictions, bah, tous les juristes et tous les gens avec lesquels on consulte, ils me donnent plutôt la raison. Du coup, c'est juste un jeu de patience, quoi, un jeu de pouvoir. Et je pense que là, justement, il faut continuer, comme tu disais, à pas lâcher l'affaire, à mettre la pression et bien comprendre que, voilà, que c'est des choix politiques. On peut faire autrement.
Oui, c'est important de pouvoir, parce que humainement, c'est sûr que quand on est tout seul, c'est très très dur. On le voit avec le cas de Javier, mais avec d'autres cas aussi. C'est très très dur de pouvoir tenir psychologiquement, et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir faire les choses collectivement. On voit bien que la politique d'austérité de la France, qui est due à la crise que nous traversons depuis 2008, a eu pour conséquence, entre autres, des restrictions budgétaires, comme on vient de le dire, en matière d'aide sociale. Et par exemple, en 2016, il y a eu le nombre de RSA, de bénéficiaires du RSA qui a diminué, et ainsi que les autres dépenses sociales, hein, qui ont subi un frein sans précédent depuis 1959 quand même. Par autres dépenses sociales, on entend les dépenses pour les retraites, la santé, la famille, le logement, l'invalidité, les accidents de travail, la maladie professionnelle, enfin, toutes ces choses-là. Et on entend dire certains que c'est la preuve que les Français vont mieux et qu'ils ont besoin de moins de prestations sociales. Or, personne n'est dupe, il n'est évidemment rien. L'adresse, c'est-à-dire la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, a démontré que cette baisse est due à deux choses. D'abord, la faible inflation, mais aussi au plan d'austérité qui coupe dans les politiques publiques. Et par rapport au département dont on parlait tout à l'heure, l'ODAS, l'Observatoire de l'Action Sociale, a précisé que si les départements sont parvenus à limiter leurs dépenses sociales, notamment en diminuant les allocataires du RSA, malheureusement, ça ne résorbera pas leur crise financière à long terme. Alors nous, on est là avec le collectif pour se poser des questions d'ordre plus politique. On se demande si on peut continuer dans cette direction, parce que, évidemment, toute cette politique d'austérité vise encore et toujours les plus faibles. Les témoignages que nous venons d'entendre nous montrent bien que les plus touchés sont toujours ceux qui n'ont pas les moyens ni le droit de se défendre. Ici, le département du Gard n'hésite pas à interpréter la loi en stigmatisant une nouvelle fois les étrangers, donc la population la plus vulnérable. Enfin, si tant est qu'on puisse établir un classement dans les populations vulnérables, puisqu'il n'y a pas évidemment que les étrangers qui sont en question ici. Hein, on peut aussi parler des femmes seules,
On peut aussi parler des chômeurs, enfin bon, plein de catégories de la population qui font partie de la classe populaire. Hein. Et malheureusement, on voit bien qu'il y a une stratégie qui est toujours d'actualité, c'est le diviser pour mieux régner, hein, puisque la classe dirigeante essaye de diviser la classe populaire en faisant passer certains pour des fraudeurs, puisqu'on voit de plus en plus de contrôles à la CAF, à Pôle emploi, en essayant de faire croire que les chômeurs et les bénéficiaires des minima sociaux sont tous des fraudeurs. Et voilà, cette classe dirigeante essaye de nous faire comprendre qu'elle, de toute façon, elle a tous les pouvoirs et qu'il vaut mieux rester bien sagement chez soi, attendre que quelques miettes du gouvernement, que le gouvernement voudra bien concéder. Alors voilà, avec notre collectif, on essaye de s'unir pour au moins ne pas rester isolés et pour ne plus subir ce système où nous sommes toujours accusés d'être responsables de notre sort. Alors que on sait très bien que c'est le système capitaliste qui est responsable de la crise financière que nous subissons et qui se nourrit toujours de la classe capitaliste de la domination sur une autre classe. Voilà. Donc on va peut-être rappeler Laurent. Oui, non, tu
ben moi, peut-être que tu veux dire quelque chose. Ben juste, je rajouterai. Ben là, on arrive un petit peu à la fin de l'émission et que. Ben en fait, ces batailles en fait qu'on mène. Enfin, tu parlais en fait de la fraude des administrations, de l'État qui essaie de stigmatiser les allocataires en disant que en parlant de la question de la fraude et souvent on entend que les allocataires en fait, bon, ce sont des personnes qui profitent en fait du système en touchant des allocations. Mais il faut aussi rappeler qu'en fait les allocations en fait c'est un salaire indirect, c'est le fruit de notre travail, de notre exploitation quelque part, et c'est pas quelque chose qui est donné de bonté d'âme par l'État ou par le patronat. C'est quelque chose en fait qui est le fruit de notre travail directement, et que c'est donc en fait quand on va à la CAF, quand on va au conseil départemental pour revendiquer nos droits, en fait c'est notre salaire directement qu'on demande. Et là, ben, peut-être que je reviendrai sur la situation de Ravière. En fait, là, ça fait 2 ans que ça évolue pas, et c'était un peu le point de départ en fait de essayer de faire cette émission aujourd'hui. C'est que ben, là, il y a vraiment une nécessité à essayer de reparler de cette histoire, de reparler pour que, bah parce qu'on sait qu'il y a d'autres personnes sûrement dans le département qui sont dans la même situation, et que serait vraiment important que ces personnes se rassemblent entre elles et notamment peut-être en prenant contact avec le collectif pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre la pression le plus collectivement possible sur le conseil départemental pour essayer de faire bouger en fait c'est juste inadmissible en fait de refuser ces RSA. Et donc voilà, donc l'appel est lancé. Et peut-être Laurent, tu peux parler, nous redire un petit peu comment ça se passe, le collectif, pour nous contacter ou nous trouver.
Oui, en tout cas, c'est sûr qu'on va continuer la lutte pour Ravière et puis pour toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation privée de RSA. Et on continuera à mettre la pression et à augmenter la pression pour que vous puissiez l'obtenir. Et donc on appelle tous les ressortissants européens qui peuvent se retrouver dans cette situation à nous contacter, et puis on essaiera d'agir ensemble sur ces situations, et aussi toutes les personnes qui peuvent se retrouver avec des problèmes face aux administrations ou face à un patron je sais pas, qui paye pas les heures supplémentaires par exemple, ou c'est pour prendre qu'un exemple. Donc il est possible de nous contacter lors de permanences. On fait deux permanences par mois. Alors c'est des nouveaux horaires et nouveaux jours. C'est le premier et le troisième samedi de chaque mois, de 16h à 18h, à La Rétive, 42 Faubourg d'Auvergne, à Alès. On fait aussi donc des réunions du collectif les deuxièmes vendredis de chaque mois à 19h, à La Rétive aussi. Enfin, c'est possible d'écrire par mail sur exploiter énervé sans accent au pluriel @riseup.net, riseup.net, et c'est possible aussi d'aller sur le site exploiter énervé, pareil, sans accent au pluriel, .noblogs au pluriel aussi, .org. Voilà.
Eh ben, à bientôt dans la rue, et puis
merci.
Et merci à tout le monde.
Merci.
Au revoir.
Et là, donc peut-être qu'on peut écouter, juste avant de se quitter, un dernier morceau. Donc là, ce sera Arthur H, la caissière du super.
faire de super. Elle est vraiment la caissière. Elle est vraiment super. La caissière du super. Pour le boss, pour le beaux yeux du boss, le boss pour le boss. Elle est vraiment super, la caissière du super. Pour le beaux yeux du boss, elle bosse. Elle bosse, bosse pour son gosse. Pour les beaux yeux du gosse, elle bosse pour son gosse. Elle est vraiment super, la caissière du super. Pour le beaux yeux.
La caissière du super.